Ce matin, nous recevons donc Monsieur et Madame Wenger pour nous parler d'évangélisation, de toucher le monde qui est autour de nous. Et souvent, depuis que je fréquente les églises évangéliques, on a cette idée que évangéliser, c'est pas pour moi. Il y a un groupe dans l'église qui le fait très bien. Il y a des gens qui le font très bien. Mais mes amis, nous nous trompons. Et ce matin, je ne vais pas marquer que nous nous trompons, je vais essayer. Le vendredi, on va étudier en alternance, là, pendant quelques temps, l'épître aux Corinthiens. Et dans cette épître aux Corinthiens, on redécouvre un mot, une mission, c'est d'être unis dans la mission de l'Église. Unis dans la mission de l'Église. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis par un même esprit et dans un même sentiment. Voilà ce que dit Paul. « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet que les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ? Je rends grâce à Dieu de ce que j'en ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise, que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas, voilà la mission, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. On l'a dit à ceux qui étaient là le vendredi, dans cette église de Corinthe, ou dans cette ville de Corinthe, d'un côté, ceux qui étaient tenus par la déesse Aphrodite, cette déesse qui, la déesse de l'amour, qui employait des milliers de personnes. Et donc ceux qui suivaient dans cette ligne-là. Et de l'autre côté, les sages et les intellectuels qui devaient tout mettre dans des boîtes. Ça devait être rationnel, sage, intelligent. Et l'apôtre Paul ici, il dit, mais écoutez-moi bien mes amis, c'est pas pour ça que je viens. C'est pas pour essayer de rentrer dans vos lignes, c'est pas pour essayer de vous suivre, mais c'est pour annoncer l'évangile. La mission que Dieu nous donne dès que le jour où nous venons à lui, mes amis, c'est d'annoncer l'évangile. Comme ce petit garçon dont a parlé tout à l'heure notre frère. Maman, j'aimerais que tu saches comment être sauvé. Est-ce que génétiquement nous comprenons que quand nous sommes vivants, c'est pour donner la vie à quelqu'un d'autre. Pour permettre que Christ le ou la rencontre. Nous avons abordé le but de notre mission. Certains peuvent se sentir concernés. D'autres, c'était avant, d'autres se dire la mission de l'Église. Où est-elle ? Cela peut même amener à des divisions. L'intention, la mienne en tout cas, c'est pas de nous amener à nous diviser les uns les autres sur la mission de l'Église. On en a parlé c'était il y a 15 jours. Donc la semaine dernière, les caducs. La semaine dernière, j'étais à Charenton, c'est pour ça que j'ai oublié. Est-ce que nous sommes unis dans l'idée de ce que nous avons à faire ensemble ? Après, sur comment le faire, il y a des adaptations possibles. Quelqu'un, entre collègues, on parlait de cette vision il y a quelque temps, et on a dit qu'il était bien de parler de Jésus-Christ, mais il était bien aussi d'incarner Jésus-Christ. C'est-à-dire que la vérité du message que nous annonçons doit être intégrée à notre vie. C'est-à-dire que nous ne soyons pas des croyants non pratiquants. Vous savez, quand les Français, ou même moi, hein, avant, quand je disais que j'étais croyant, pas pratiquant, ça voulait dire que ma pratique, c'était de ne pas aller à l'église. En fait, je déconnectais le fait de croire d'aller à l'église, mais c'est pas le fait d'aller à l'église qui fait de moi un croyant ou un pratiquant. Le pratiquant, c'est dans la vie de tous les jours. C'est dans ma perception, dans ma transmission, dans mes actes, dans mes pensées, dans mes paroles. C'est ça la transmission de l'évangile. Comment établir et maintenir l'unité de l'Église de Christ? Comment concilier les personnes différentes, des nationalités différentes? Et là, on a le problème. Des perspectives différentes. L'unité ne se développe pas par un attachement aux hommes, mais par une consécration à notre mission essentielle, la proclamation de l'Évangile. C'est envers Dieu que nous nous engageons. Et Paul ne s'était pas engagé envers des hommes, mais envers Dieu. Et il a pu dire plusieurs fois, est-ce que c'est pour plaire aux hommes? Non, c'est pour plaire à Dieu. Parce que quelque part, si j'ai la vie, c'est grâce à Dieu. Si je peux respirer, si je peux travailler, si je peux vivre, si je peux avoir de l'argent dans mes poches, c'est grâce à Dieu. Dieu utilise les hommes, mais c'est grâce à lui. Et notre engagement est envers Dieu, pas envers les hommes. Les hommes passent. L'objet de son exhortation vise au développement de l'harmonie. Alors, on a souvent des gens ici, là, à gauche, et notamment la musicienne, elle est partie, qui essayent que ceux qui sont sur l'estrade soient en harmonie avec la musique. Et souvent, il y a des sons discordants. Eh bien, l'évangile, c'est la même chose. Et la vie d'une église, c'est la même chose. On peut chanter une musique une musique qui semble identique, mais complètement en désharmonie. Ou en fait, il y a des notes équivalentes, mais qui ne vont pas sur la même portée. Et l'important, mes amis, c'est de comprendre que si nous ne serons pas tous un jour des Gédéons, si nous ne serons pas tous un jour des missionnaires, si nous ne serons pas tous un jour des écrivains, nous avons tous ce mandat. Et si nous ne sommes pas unis dans ce mandat, alors il va y avoir dissonance, il va y avoir des problèmes. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons un. L'Église a un devoir d'unité. Voilà, pardon, je suis allé trop vite. C'est le souci du Christ qui prie, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es un en moi et que toi, et que eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Comment créer l'unité? Comment enlever ces barrières qui nous séparent? Ces compréhensions qui nous séparent. Ça ne veut pas dire que demain, mes amis, nous penserons exactement tous la même chose. Ça ne veut pas dire que demain, nous dirons tous la même chose. Ça ne veut pas dire que demain, nous serons habillés tous de la même façon. Ça veut dire que quelque part, nous comprenons bien ce que Dieu nous a confié, tous ensemble, et que nous sommes d'accord sur cette idée-là. Après, comment le faire? Avec nos spécificités, nos caractères, nos compétences, nos dons. Là, il y a du travail à faire. Mais dès le départ, souvent nous mettons cette séparation. Ce n'est pas pour moi l'évangélisation. Mais nous évangélisons tous les jours. Chacun. Là où nous sommes. Nous impactons des gens tous les jours. D'une bonne façon, d'une mauvaise façon. L'Église de Jérusalem brillait d'une unité remarquable. Acte 4, 32 nous dit ceci. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. On appelle ça le communautarisme, qui déplaît au gouvernement. Ce que Dieu nous a donné, nous le mettons au service de Dieu. J'ai ce privilège, et c'est vrai que je trouve ça vraiment un privilège de voyager dans le monde. Et ce qui toujours m'étonne, mes amis, ce qui toujours m'étonne, et je le vis aussi en France, hein, mais ce qui m'étonne, c'est quand j'arrive dans n'importe quelle ville que j'arrive, il y a une adresse, il y a un téléphone, il y a des gens qui m'accueillent, des gens qui vont me voir une fois dans leur vie peut-être, avec qui après on va rester en contact internet, téléphone, et qui, pendant le court séjour où je suis chez eux, mettent leurs biens à ma disposition. Leur maison, leur voiture, leur temps, leur argent. C'est un moyen, mes amis. Un moyen extraordinaire que Dieu nous donne de pouvoir accueillir, de pouvoir aimer, de pouvoir prendre en compte l'autre. Il existe un bénéfice humain et spirituel colossal dans l'unité d'un groupe d'hommes. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable, on le sait, pour des frères, de demeurer ensemble. De demeurer ensemble. Demeurer, c'est pas juste se croiser le dimanche matin pendant une heure et demie en écoutant religieusement le pasteur. C'est pas ça la communion. La communion, c'est d'aimer être ensemble, de pouvoir survivre à nos différences, de pouvoir apprécier nos différences. Même, j'irai jusqu'à dire, peut-être je regretterai, nos divergences. Hein. Mais c'est ça l'unité. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères. Est-ce que nous le vivons? Est-ce que c'est agréable d'être ensemble? Est-ce que être dans le même lieu nous paraît quelque chose de raisonnable et de bien? C'est ce qui est arrivé à l'église de Jérusalem au début, et c'est ça qui a rayonné, qui a envoyé même ces gens dans la persécution annoncer l'évangile. Voilà, quand on n'est pas compétent en informatique, on fait des bêtises. Voilà. Cette unité fait que lorsque l'on est en désaccord, on se rassemble pour parler et trouver des solutions concrètes. Acte 6 nous montre un exemple pour les conflits culturels et acte 15 pour les conflits doctrinaux. Alors, je crois que je ne l'ai pas mis. On va tourner nos pages. J'ai cité quelque chose que je ne montre pas. Donc, acte 6. L'Église augmentait, l'Église grandissait. Et des femmes ont dit, mais nous, on nous délaisse. Acte 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait, les hédénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Ça vient aux oreilles des apôtres. Les 12 convoquèrent la multitude de disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. L'Église grandissait, l'Église devenait difficile à être gérée, et on demandait aux hommes qu'ils remplissent des tâches dont ils n'avaient plus forcément le temps, et on a choisi des hommes à l'intérieur. Et regardez bien, on n'a pas choisi des gens juste qui étaient volontaires pour servir les autres. On a choisi des hommes qui étaient remplis d'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il a dit encore, de sagesse dans la distribution des biens pour que chacun soit satisfait. Acte 15. Nous savons que lorsque l'apôtre Paul, avant de repartir pour un voyage, a entendu que à Jérusalem, il y avait des soucis de doctrine où on commençait à imposer aux nouveaux chrétiens non juifs des règles juives, alors on a établi un concile dont l'apôtre Paul... L'apôtre Jacques, etc., ont participé. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat, une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montaient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivaient la route à travers la Phénicie, la Samarie, etc., racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Regardez bien, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Ils ont allumé la radio, ils ont su qu'à Jérusalem, il y avait des problèmes. Ils en ont discuté, même apparemment discuté intensément, hein, puisque le terme ici, ils eurent une vive discussion, mes amis, c'est quand on ferme la porte et quand on dit, on espère que les voisins, ils ne vont pas entendre. C'est ça, vive discussion. Hein. C'est débrancher les écouteurs, faire monter un peu la musique parce qu'il va falloir que ça parle. Mais qu'on arrive à une solution. Et regardez bien, ils continuent leur ministère, ils vont à pied, ils n'ont pas pris l'avion, hein, ils n'ont pas pris la compagnie Vueling hein, qui vole sur l'Espagne. Ils sont allés en avion, à pied plutôt. Et là, à pied, en attendant, ils devaient être quand même. On peut imaginer que les frères, ils étaient un peu bouleversés dans leur tête, hein. Qu'aller rencontrer les anciens à Jérusalem et leur dire il faut qu'on discute, ça devait pas être. Et regardez bien, qu'est-ce qu'ils faisaient en route ? Qu'est-ce qu'ils faisaient en route ? Verset 3, après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivaient leur route à travers la Phénicie, la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à leurs frères. Avant que d'aller au combat, avant de rentrer dans un débat théologique où là ça va encore saigner un peu fort, tout en marchant, tout en rencontrant les frères et sœurs, ils racontaient la conversion et ils causaient des sujets de grande joie. Et là après, il y a le fameux concile de Jérusalem. Où là, ils discutent, ils argumentent et ils arrivent à une solution. Arriver à une unité, mes amis, ça veut dire on va discuter, ça veut dire on va prier, ça veut dire on va réfléchir. Ça ne veut pas dire on va rester chacun sur sa position. Toi, tu penses blanc, moi, je pense noir. Peut-être il y a une solution grise au milieu, mais en tout cas, chacun de son côté. L'unité est désirée par Dieu. Jusqu'à ce qu'elle soit un frein à la vérité. Mais avant cela, il faut travailler à l'unité de chaque église pour qu'elle ne soit pas un frein. Pardon. Paul dit qu'il n'y ait pas de division, de schisme, de déchirure entre vous. Qu'il n'y ait pas de division. Qu'est-ce qui nous divise ? Qu'est-ce qui nous oppose ? Qu'est-ce qui nous dérange ? Il y en a des choses, hein. Ce que tu écoutes, ce que tu lis, ce que tu penses, ce que tu es, ce que tu vis. Ça met des divisions entre nous. Et l'apôtre Paul dit, pas l'apôtre Paul, Matthieu 9, 16 dit qu'il n'y ait pas de division entre vous. Qu'il n'y ait pas de division. Cette unité ne se fait pas à n'importe quel prix. Il existe des moments où la séparation est nécessaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. C'est Paul qui confie ça à l'Église. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales. Contrairement à l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous de ces gens-là. Le diable rôde, mes amis. Le diable est là. Et vous savez qu'on ne l'invite pas à l'église. Si, enfin, on l'invite pour qu'il s'assoie et qu'il se convertisse, mais on a du boulot. Hein. Et souvent, il nous saisit les uns les autres pour raconter des histoires, pour dire « n'écoute pas » ou « tu sais ce que le frère il dit, mais si tu savais ». Le diable, il a des armes extraordinaires hein, dans lesquelles les uns et les autres, on peut rentrer, se faire aveugler. Éloignez-vous d'eux. Dieu ne veut pas la division. Dieu ne veut pas que nous ayons des oppositions qui, quelque part, au nom de la divergence, au nom de la liberté, nous amènent à considérer l'autre comme quelqu'un de vil. La division des églises, la division des missions, la division des chrétiens. L'église était déchirée par des conceptions très diverses. Les juifs voulaient des miracles, les grecs de la sagesse. Il existait un très important clivage, séparation entre les riches et les pauvres. Une morale très stricte, s'immisçait, allant jusqu'à des aberrations telles que l'abstinence de relations sexuelles au sein d'un couple. Aux côtés d'une morale très légère, allant jusqu'à admettre l'inceste. C'est-à-dire qu'on allait d'un bord à l'autre. Les forts côtoyaient les plus faibles. Les spirituellement doués s'opposaient à ceux qui avaient des dons qu'ils considéraient négligeables. Ceux qui croyaient à la résurrection des morts se heurtaient à ceux qui, eux, n'en étaient pas sûrs. Et qui fera dire à l'apôtre Paul plus tard, hein, si Christ n'est pas ressuscité, alors mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Quelle église ! Quelle église ! Et vous savez quoi ? Et Paul, il va dire à ces gens-là, vous êtes le temple de l'Esprit-Saint. Ouh ! Moi, je ne sais pas si j'aurais eu dit cette même phrase. J'aurais peut-être dit, écoutez les amis. Heureusement, il y avait Paul là au moins. Corinthe était une plaque tournante de commerce. Asie mineure, trois ports, un système ingénieux permettant des passages, des rouleaux, des petits bateaux. Chloé était peut-être une riche commerçante dont les employés faisaient la navette entre Corinthe et Éphèse. Elle était dans un petit groupe. Certains de ses employés étaient peut-être des chrétiens. Ils sont venus voir l'apôtre Paul, ils ont dit, Paul, il y a un problème là-bas. Il y a un problème à Corinthe, il faudrait que tu ailles voir. Des discordes, des querelles, en résumé la plaie. Il faut savoir admettre que celle-ci est un sentiment intimement lié à la nature humaine. C'est notre humanité qui est là et qui nous amène à faire cette divergence. Ne vous y trompez pas, le discours de discorde, le désir d'entrer dans une relation conflictuelle avec les autres provient de la chair. C'est un poison dont nous sommes affectés. Ce désir de discorde peut avoir plusieurs origines. L'orgueil, par présomption, je pense que, qu'on provoque une brouille. Certains pensent toujours avoir raison. J'ai raison, n'est-ce pas ? Le moindre désaccord, et c'est la colère. L'homme coléreux excite les querelles, Proverbe 29-22. Certains ont une tendance à la violence. Parfois, où ils passent, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. La jalousie. Ses adeptes aiment à se comparer aux autres. Oh, t'as vu, heureusement. Hein. Bah, heureusement que Dieu il m'a fait, hein, parce que alors lui, il était temps que j'arrive. Pour mieux briller, ils écrasent les autres. Quelles que soient nos motivations dans ce sens, un esprit querelleur est abominable devant Dieu. Qui aime la brouille, aime le péché. Proverbe 17-19. Commencer une querelle, c'est rompre une digue. Proverbe 17-14. Mes amis, ayons cette clairvoyance. Ayons cette clairvoyance. Si nous voulons être unis dans la mission d'annoncer l'Évangile, nous avons besoin de travailler instamment sur nos rapports. Jésus, dans ses rapports avec les disciples, a utilisé parfois un peu des verbes difficiles, chauds, mais l'objectif de Jésus, c'était de réconcilier les hommes avec son Père. Et nous avons un ministère de réconciliation, pas un ministère de division. Et si nous voulons être en phase avec l'Évangile que nous annonçons, alors nous avons besoin de travailler. La plaie de Corinthe était un esprit de parti. Un maître et ses disciples qui formaient une sorte de clan. Cet esprit envahit l'Église. Moi, je suis de Paul. Les artisans de Paul, il devait donc y avoir des opposants, sont les chefs de file. C'était soit converti suite à l'écoute de son message, soit il avait été baptisé par ses soins. Moi, je suis d'Apollos. Apollos, ce talentueux orateur, présentait Apollos comme un juif éloquent, versé dans les Écritures. L'intelligentsia, la grosse tête de l'Église, qui devait aimer les hauteurs intellectuelles d'Apollos. C'est pas Apollos hein, qui avait cette idée-là. Et moi, de Céphas, de Pierre. Certains ont spéculé sur une visite de Pierre à Corinthe. Et moi, de Christ. On ne peut pas être supporter des hommes. Notre mission, mes amis, l'unité de la vision, c'est d'être réunis autour de Jésus-Christ. L'esprit de parti n'a pas de place. Moi, je préfère la prédication d'un tel. Moi, je préfère quand c'est un tel qui fait l'étude biblique. Moi, je préfère quand c'est un tel qui fait ceci. Mes amis, ce sont des hommes. Ce sont des femmes. Ce sont des instruments que Dieu utilise. Mais c'est Christ qui est annoncé. C'est Christ qui est vécu. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? 1 Corinthiens 13. Qu'il n'en soit pas ainsi, mes frères et sœurs. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Regardez bien la fin du verset. Là. On pourrait l'arrêter là, le verset. Sans la sagesse du langage. Alors là, on laisse. Mais regardez bien. Afin, on le lit ensemble. Afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Par notre incompréhension, par le manque de sagesse, par nos esprits de parti pris des fois. Nous faisons quoi? Nous rendons la croix du Christ vaine, parce qu'elle n'agit même plus en nous. Nous parlons d'amour alors que nous avons des querelles. Nous parlons de réconciliation alors que nous avons des divisions. Nous parlons d'amour alors que nous avons de la haine. C'est pas possible. L'œuvre de la croix, c'est de me réconcilier avec mon Père. Et l'œuvre de la croix, c'est de pouvoir vous aimer, de pouvoir nous aimer. Ça ne veut pas dire être tout le temps uni, tout le temps sans problème, mais capable d'en discuter, capable d'affronter ces choses. Il ne s'agit pas d'un dénigrement de l'importance du baptême, dans l'apôtre Paul, Il n'a pas dit que le baptême n'était pas important, mais son rôle à lui était d'annoncer l'évangile. Il semble que les Corinthiens avaient une conception incorrecte du baptême, frôlant la conception magique. Il se passe des choses au baptême. Je disais au frère que je suis en train de préparer au baptême, je lui dis, je vous rappelle bien, et je le fais à chaque baptisé, le jour de votre baptême, la seule chose extraordinaire qui va arriver ce jour-là, c'est que vous allez rentrer sec dans le baptistère et vous allez en ressortir mouillé. C'est le seul moment magique, et ce n'est même pas magique, c'est rationnel. On parle d'une histoire ancienne qui s'est passée dans votre vie, vous avez accepté Jésus-Christ. Ce jour-là, il ne se passe rien d'autre. Un témoignage, une obéissance à Jésus-Christ. La seule chose, vous êtes sec quand vous rentrez, vous ressortez mouillé, il faut vite aller vous sécher. Paul montre que le baptême passe après la proclamation de la croix. S'il n'y a pas de parole, s'il n'y a pas d'annonce, en qui croiront-ils? Et s'ils n'entendent pas, est-ce qu'on ne peut pas envoyer des personnes? Si personne n'annonce, son intention est de montrer la vanité d'un raisonnement philosophique humain, des esprits de parti, la puissance de la croix. Puissance de la croix, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un Christ crucifié, c'est un non-sens. Un roi perdant, c'est un non-sens. Mais Jésus n'a pas perdu à la croix. Il n'est pas resté à la croix. Il est vivant. Bien souvent, nous cherchons à argumenter, à démontrer des vérités qui ont surtout besoin d'être proclamées. La démonstration de la vérité appartient au Saint-Esprit. C'est lui qui peut convaincre, corriger, instruire le cœur de l'homme. Nous ne pouvons pas le faire. Notre frère tout à l'heure a dit donner un Nouveau Testament à quelqu'un, c'est souvent plus puissant que d'essayer de lui montrer par A plus B, parce que pourquoi je crois. Mais déjà de l'exposer à la parole de Dieu, de rencontrer Jésus-Christ. Je ne peux pas démontrer pleinement bon nombre des vérités de l'Écriture, mais je peux les annoncer. Vérifie, mon frère. Vérifie, c'est écrit. Il y a des choses qu'on annonce et qu'on ne peut pas montrer, n'est-ce pas? Où nous sommes littéralement désarmés. Je vous suggère que ce verset 17 est une réponse, l'une des réponses au problème des divisions de Corinthe. L'unité dans une église, c'est vraiment difficile. Quelques points de tension. On va regarder 1 Corinthiens 1:17, parce que là, je ne l'ai pas mis. Non, c'était pas 1, c'était... Voilà. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, vivre l'évangile. C'est ça notre mission. L'unité centrale de notre vision, c'est d'annoncer l'évangile. Vous êtes convaincus? Vous le croyez? Bon, je ne vais pas vous faire lever la main. Le charisme du fondateur, c'est important. Ah, le frère untel qui a fondé notre église. Mais il est mort. Ah oui? Donc, si on s'attache au fondateur, le jour où il meurt, on n'a plus de fondateur. La survie d'une organisation. Mais quand elle s'arrête. Un projet important et mobilisant. Ah, oh, moi j'ai participé. Ah, oh, mission 86. Ah, oh, j'y étais. Vous savez, avec Billy Graham en 86 à Bercy. Ah. Oh. Alors c'est intéressant parce que ceux qui s'attachent aux événements. Ah, oh, moi j'y étais. Et alors on reste 86. Et on est en 2012. Hein. Faut lâcher Bercy, faut venir à Vigneux-sur-Seine. Hein. Il se passe des choses. Les traditions, mais quand elles nous éloignent de la vérité. Nos traditions de pays, de culture. Ah, on fait ça chez moi. Ah oui, mais c'est pas très biblique. Nous ne sommes pas unis pour écouter de la bonne musique le dimanche matin. Nous ne sommes pas unis pour créer une association exemplaire dans les livres juridiques vanteront les mérites. Nous ne sommes pas une église pour passer du temps ensemble le dimanche matin uniquement. Christ nous a invités, élus, à faire partie d'un peuple qui a une mission à mettre en route des valeurs à partager. Ensemble, nous pouvons faire plus que tout seul. Ensemble, nous nous complétons. Ensemble, si l'humilité de Christ règne, nous saurons demeurer calmes quant aux différences des uns et des autres. Pour nous concentrer non sur ces différences, mais sur la tâche, la mission que nous avons, un pour tous, tous pour un. La tâche de vivre notre foi dans l'harmonie, c'est ainsi d'en parler, est une tâche qui est essentielle, mes amis. C'est le meilleur moyen de fédérer un groupe d'hommes et de femmes, de nous fédérer, de pas simplement nous réunir, mais nous faire avancer. J'espère que nous sommes dans cet objectif, d'être unis dans la vision de l'Église, dans la mission. C'est la mission que Dieu a donnée à toutes les églises du monde entier. Pas d'être bien ensemble. Vous voyez, c'est intéressant parce que dans le livre des Actes, acte 4, on a vu tout à l'heure que l'évangile, les gens mettaient tout ensemble et ils mettaient tout à disposition. Ce qui est intéressant dans le livre des Actes, c'est qu'on voit qu'à chaque fois que l'Église était bien ensemble, il gagnait l'attention des gens qui disaient « Tiens, il se passe quelque chose. » Parce qu'ils étaient vus. Parce que on ne déblitérait pas, on disait pas « Oui, mais enfin oui, je vais à l'Église, mais enfin faut pas... » Hein, faut pas croire tous les frères et sœurs qui viennent. Hein. Le pasteur, oh là là. Que nous sommes unis dans cette perspective pour que Vigneux soit gagné à Jésus-Christ. Pour que notre ville, notre département de l'Essonne soit gagné à Christ. Pour que notre pays de France soit gagné à Christ. Et que nous n'oublions pas de laisser partir aussi ceux qui sont appelés pour aller à l'extérieur porter l'Évangile. Mais l'Évangile, ça commence par ici, par la ville dans laquelle nous habitons, par l'escalier dans lequel nous sommes, par le bâtiment dans lequel nous habitons, par les commerçants que nous fréquentons, par nos employeurs. C'est pas juste parler d'une mission qui est dehors, mais c'est de parler dans cette mission qui est dedans. Alors, j'espère que En balayant toutes les divergences qu'il y avait dans cet épître aux Corinthiens, j'espère que vous n'avez pas eu le sentiment que je balayais devant la porte, mais que peut-être cette mission que Dieu nous a donnée, nous puissions voir comment dans la divergence nous pouvons le faire. Comment, en fait, de notre spécificité à chacun, nous allons être capables de mieux faire progresser l'Évangile. Afin que nous ne soyons pas là juste pour comptabiliser les gens qui rentrent par la porte, mais de dire au Seigneur Jésus et à son esprit, convainc ces personnes parce que tu veux aussi les sauver. Tu as un peuple nombreux dans cette ville que toi tu veux toucher. Amen.